I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
La toile.
Avant de commencer, il faut toujours mettre les téléphones en mode silence.
C'est un peu fort le son, Richard, dans nos oreilles.
Je crache mes glaires.
Ouais, juste pour éviter d'être outside of the angle.
J'ai un truc dans le nez, c'est grave. Tu peux faire des petites stories de nous, comme si on fait genre on parle.
On met pas les mains sur la table.
Mais sûr que vous voulez pas un miroir, non? Ah.
Quelle est l'app, s'il te plaît, focus.
On est prêt.
3, 2, 1, action.
Dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pierre Gobil. Pierre Gobil, c'est l'Européen avec une mentalité de la Silicon Valley. Il a vécu à San Francisco pendant 17 ans et il a construit, et j'insiste sur le mot construit, 3 startups. Pierre Gobil, il fait partie d'un fonds d'investissement américain qui a investi dans 54 startups et surtout, il a monté son académie, un peu comme la Starac, mais rien à voir, pour accompagner les créateurs d'entreprises à monter leur startup step by step. Pierre Gobil, c'est un coach. Il n'a pas sa langue dans sa poche, alors il coach de façon directe, façon prof de sport, un peu brute de décoffrage, sans concession, et évidemment toujours de façon constructive et bienveillante. Pierre, bonjour.
Salut Pénélope.
Comment tu vas?
Écoute, moi ça va très bien, et toi?
Ça va très bien. Est-ce que tu as déjà écouté notre podcast?
Oui.
Donc tu connais la première question?
Vas-y.
Ok, donc je rappelle pour ceux qui nous découvriraient un peu tard, notre première question, c'est le jeu du « tu préfères ». Tu préfères avoir une killer team qui déchire et un purpose de merde ou un purpose qui tue mais une team de merde?
Une killer team qui déchire. Parce qu'une killer team qui déchire va trouver le bon purpose s'il n'est pas bon. À l'inverse, ça marche pas.
Ah ouais?
Ouais. Au départ, dans une startup, tout est lié à la team. Parce qu'en fait, tu es dans une chose qui est très incertaine. Donc, tu découvres des trucs à chaque tournant. Et donc, toute la qualité d'une startup, au départ en tout cas, dépend de la team qui va savoir s'adapter à tout ce qui se présente à elle. À partir de là, bah, prendre des bonnes décisions. Donc, si tu as un bon purpose et une mauvaise team, prochain tournant, ils vont prendre le mur. Si tu as une bonne team qui a un mauvais purpose, ils vont tout de suite s'en apercevoir et faire ce qu'il faut pour avoir le bon. Donc,
parfait.
La team, c'est tout.
La team, c'est tout. On adore cette phrase. Le problème, c'est que mon jeu est un peu, du coup, foiré parce que le principe du « tu préfères », c'est que tu n'es pas capable de répondre. Donc, je dois en faire un deuxième.
Ah, vas-y.
Tu préfères ne plus jamais être en contact avec des startups, mais qu'on t'appelle parce que tu es la ref pour que tu coaches les startups, mais du coup, tu dois ignorer les demandes parce que tu ne peux plus être en contact avec elles, ou ne plus avoir de famille, d'amis, de vie perso et faire que travailler et coacher des startups matin, midi, soir?
Donc, j'ai pas le droit de répondre?
Bien sûr, il faut que tu répondes.
Alors, moi, je préférerais ne plus parler aux startups.
Ne plus jamais être en contact avec des startups, mais en revanche, on t'appelle tout le temps, mais tu dois dire non, désolé.
Voilà, c'est ça. Mais à côté de ça, j'ai une vie.
C'est le plus important pour toi?
Ah, beaucoup plus, oui.
D'accord. Donc, c'est facile, ce petit jeu-là, pour toi?
Bah, pour moi, c'est facile, parce que moi, j'ai toujours considéré que le travail, c'était une chose importante, parce que ça occupe une grande partie de ta vie, mais c'est pas majeur, c'est pas ce qui me détermine.
Mais pour quelqu'un qui a vécu à San Francisco pendant des années dans la Silicon Valley...
Oui.
On se dit qu'il y a quand même un vrai truc de boulot important.
Ah, mais j'ai adoré ce que j'ai fait. Mais j'ai jamais considéré que c'était ça ma vie. C'est-à-dire que les gens qui se déterminent par rapport à leur travail, quand ils arrêtent de travailler, leur vie est un peu vide.
Tout à fait.
Voilà. Et moi, mon travail a toujours été un complément à ma vie, mais pas ma vie.
Et tu parles au passé?
Oui, parce que depuis que je suis parti de San Francisco, les choses sont un peu plus légères, on va dire. Mm. La France est plus petite, il y a moins de choses, quoi. C'est plus léger, quoi.
Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on dit... alors, ma question est con, parce qu'elle est assez évidente, mais j'aimerais quand même que tu répondes. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'aux États-Unis, les gens bossent comme des malades et ils gagnent leur vie en conséquence? En fait, je comprends, mais comment ça se fait? Ça vient d'où?
Alors, c'est faux, les gens aux États-Unis travaillent moins qu'en France. D'ailleurs, si tu regardes les statistiques, la productivité par employé en France est supérieure aux États-Unis. Donc aux US, tu pars, par exemple, San Francisco, on commençait le matin vers 7h, mais à 4h, c'est fini. La plupart des gens, ils rentraient chez eux, ils allaient voir leurs enfants.
Ça revient à 9h, 18h.
Ouais, mais c'est pas la même vie qu'en France, parce qu'en France, tu te lèves peut-être à 8h, tu commences à 8h30, 9h, mais à 19h, 20h, t'es encore dans les transports ou t'es encore au bureau.
Oui.
C'est peut-être moins d'heures. Moi, je trouve que la productivité est moins bonne aux États-Unis et que les gens travaillent moins. Alors, ils sont mieux payés pour plein d'autres raisons. En tout cas, dans la tech, hein, pas partout, parce que le salaire moyen américain, il n'est pas plus élevé qu'en France. Mais dans la tech, le salaire est très, très élevé parce qu'il y a une énorme pénurie de gens. Et donc, qui dit offre et demande, dit que les prix montent.
Mais attends, pourquoi on dit, mais ouais, aux États-Unis, les mecs bossent comme des malades, plus tu bosses, plus tu gagnes de l'argent.
Il faut savoir que les États-Unis, c'est un pays qui n'est pas social. Donc, il n'y a pas de filet de secours. L'école coûte une blinde, l'hôpital coûte une blinde. Il y a des moments quand tu demandes une ambulance, on te demande d'abord ta carte bleue. Et donc, aux États-Unis, si tu n'as pas d'argent, bah, tu peux mourir d'un cancer. Donc, gagner de l'argent, c'est important pour ne serait-ce que vivre.
C'est pour ça qu'on dit souvent, les Américains, ils ont plusieurs boulots.
Les Américains ont plusieurs boulots parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est que le coût de la vie est important et d'autre part, c'est des grands consommateurs. Donc, ils ont tendance à beaucoup s'endetter pour acheter des conneries. Ils ont 500 machines à laver, 3 trucs à la noix et ils sont toujours dans la consommation. Ils se complaisent là-dedans. Je caricature, mais c'est un peu ça. Mmh. On est un peu moins consommateurs que les Américains. On est en train de le devenir malheureusement. Mais donc, cette hyper-consommation et cette cherté de la vie fait qu'ils ont besoin d'avoir effectivement un salaire conséquent.
D'accord, merci pour ce petit laïus sur les États-Unis, Pierre Gobil. On a fait un projet ensemble.
Yes.
Qui s'appelait
34 éléments.
Voilà, c'était un
podcast.
De
moi.
Voilà.
Ça te va?
Je sais pas ce que j'attendais à cette réponse.
Moi non plus.
Est-ce que tu peux m'expliquer comment ce projet est né, ta version, et après évidemment j'aurai ma version qui est évidemment pas la même.
Ok, je te donne la mienne. La mienne, c'est que en fait. J'ai essayé de formaliser pas mal de connaissances que j'ai pu accumuler au fil de ma longue vie, puisque je ne suis plus tout jeune. Et j'ai voulu en fait faire un give back auprès des jeunes entrepreneurs. Donc je l'ai fait au travers d'un projet qui s'appelle 34 éléments, qui était une académie. Cette académie touchait un nombre de gens restreint. Le podcast, pour moi, c'était deux choses. C'était d'une part, pouvoir élargir le give back à des gens qui, de toute façon, ne feraient jamais l'académie, mais qui puissent apprendre des choses comme ça grâce au podcast.
Parce qu'ils n'ont pas les moyens ?
Parce qu'ils ne me connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'il y a plein de raisons. Et l'autre raison, c'était aussi de me rendre crédible. Parce que je suis sur un marché où il y a énormément de charlatans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent coach de start-up, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui ont lu 3 papiers et qui se disent « ça y est, je suis coach ». Et qui sont d'ailleurs toxiques et dangereux pour l'écosystème. Donc l'idée, c'est de dire en fait, c'est important que les gens puissent se faire une opinion a priori, et pas a posteriori. Et donc, le a priori, c'est le podcast. C'est de dire, ben, je suis peut-être un de ces charlatans, ben, écoutez-moi, puis vous verrez bien. Et si ça vous plaît ce que je raconte, on se parle. Donc, c'était ça, le podcast. C'était aussi gagner en crédibilité. C'est quoi ta réponse ?
Ben, moi, j'aurais pas du tout commencé comme ça, mais tu sais, moi, je suis une storyteller.
Oui.
J'aurais dit, un jour, j'étais en Crète, j'écoutais un podcast de Caroline Mignot.
Oh, c'est chiant, ça, c'est chiant, ça.
Ouais, c'est chiant.
Ah ouais, c'est chiant.
Ouais, c'est chiant.
Non.
Bon, bah, alors, ok, donc, deuxième version.
Ouais. Vrai, il faut être direct, il faut aller droit au but.
Ben, en fait, tu me disais, Pénélope, faisons un podcast. J'ai dit, ben, si tu veux, Pierre, je peux te filer un coup de main. D'accord. En revanche, si je te le fais, c'est moi qui dis comment faire. Tu as dit, bon, bah, ok, c'est toi l'experte. Et j'ai dit, ok, go, on y va.
Ça me va.
Voilà.
Et grâce à toi, on a fait un truc qui est bien. Parce que moi, j'aurais fait un truc trop long, trop chiant. Et
ah oui.
Tu m'as hyper bridé, mais c'était mieux.
Ah, justement. Justement, qu'est-ce que ça t'a fait de ne pas pouvoir être quelque part le pilote de ce podcast? Parce que comme c'est nous qui le produisions.
Mais pour moi, c'était très rassurant parce que comme j'y connais rien en podcast et que j'ai un immense respect pour l'expertise, et je me suis dit, bah, c'est toi l'experte et pas moi, j'avais aucun complexe à me laisser guider. Moi, je prends toujours la substantifique moelle. Tu vois, voilà, je pense qu'on est toujours dans... Il faut être la quintessence des choses, c'est important. Et dire les choses clairement et de manière courte, ça signifie qu'on a compris ce qu'on dit. Et je me suis aperçu qu'en faisant le podcast, je ne me l'appliquais pas à moi-même.
Intéressant.
Et que donc tu m'as dit, bah, écoute, tu as dit 3 fois la même chose, dis-le une fois, ça suffit. Et donc j'ai dit une fois, et en fait, c'est tombé à 4 minutes, et c'était très bien.
Parce qu'au début, c'était 12. Hein.
Ouais, j'aurais pu faire même plus.
Mmh. Et c'est quoi les retombées ?
J'ai des milliers de gens qui m'ont écrit en me disant, c'est génial, ça m'a vachement aidé, etc., etc. Donc ça, c'est cool. Ça m'a aussi amené des clients, des gens qui ont voulu faire l'académie par la suite. Donc voilà, ça a rempli son rôle. La difficulté du podcast, et tu le sais mieux que moi, c'est pas que de le faire, c'est aussi de le promouvoir.
Et oui.
J'ai eu un reach qui est ce qu'il est, qui aurait pu être plus, mais ça, c'est beaucoup plus complexe.
Et pourquoi t'as pas mis un petit billet pour le médiatiser ?
Parce que je l'ai pas. Moi, j'ai une académie qui peut pas se payer des gros billets. Je suis pas un corporate.
Mais c'est combien une académie ?
Une académie, c'est 1 790 €.
Bah voilà, tu mets 5 000 €, t'en récupères 2, c'est fini.
Ouais, mais 5 000 €, ça te récupère... Tu crois que ça récupère 2 ?
Bah 5 000 €, t'as 6 500 écoutes garanties.
Ouais.
Donc sur 6 500 personnes qui écoutent ton podcast, si tu veux pas en closer deux,
c'est que je suis pas bon, c'est ça?
Oui. Non, mais tu vois, quand même. On va écouter un petit extrait de ce podcast, un petit 30 secondes, minutes. C'est un extrait sur le why.
Oui.
Et on va l'écouter en live.
Le purpose, le fameux why. Et le why répond à une question très simple, mais très dense, qui est pourquoi votre startup existe? Alors, ce purpose, il doit venir des fondateurs. C'est-à-dire que ça doit être un truc qui anime les fondateurs. Vous devez avoir une espèce de volonté commune de changer le monde pour quelque chose de mieux. Et ça doit un peu sortir des tripes des fondateurs.
Alors, Pierre, au lieu de pianoter sur ton téléphone alors qu'on t'a demandé au tout début de mettre sur le mode avion, est-ce que tu peux, s'il te plaît, commenter cet épisode ?
C'est un truc qui est considéré comme étant hyper américain, le purpose.
Simon Sinek.
Les gens disent, ouais, lui, il l'a fait, mais il y en a plein d'autres qui ont fait ça avant.
C'est lui qui est le plus connu, non ?
C'est lui qui est le plus connu parce qu'il a vulgarisé la chose, on va dire. Mais c'est pas lui qui est à l'origine de cette idée-là, évidemment. En France, on a tendance à considérer que c'est un peu du pipeau américain. Mmh. Tu vois, le purpose, la culture, la vision, toutes ces conneries. En fait, ce qu'il faut, c'est faire un produit, gagner du pognon, et puis c'est bon, quoi. En fait, c'est hyper important de se poser ces questions fondamentales. On passe beaucoup de temps à ce qu'on fait. Et c'est une bonne question de se poser pourquoi je fais ça et pourquoi je fais pas autre chose. Quand j'étais investisseur, j'avais deux questions. La première, c'est pourquoi ta boîte existe? Et la deuxième, c'est pourquoi tu fais ça? Et rien que ces deux questions, ça te permet de bien cerner un entrepreneur très rapidement. En règle générale, à la première question, les réponses étaient assez médiocres et à la deuxième, très médiocres. Et c'est rare que tu vois en fait des gens qui ont vraiment réfléchi à cette question-là et qui sont réellement en phase avec ce qu'ils font. Et si tu veux réussir, il faut être en phase avec ce que tu fais. Si t'as pas quelque chose qui, chez toi, résonne et fait que tu as été fait pour faire ça, ben, tu le feras peut-être moins bien. Et surtout, tu seras moins résilient. C'est-à-dire que si à un moment donné, ça devient difficile et que tu trouves autre chose de plus sexy à faire, ben, tu le feras. Par contre, si c'est ton calling, tu resteras et tu le feras jusqu'au bout. Et c'est dans la résilience et dans la durée que finalement, on réussit.
Et alors, je me souviens, parce que avant de faire des podcasts, on s'est un peu entretenu. J'ai eu droit à des petits coachings. Et je me souviens que tu m'as posé la question. Et
évidemment.
Et qu'est-ce que j'ai répondu, Pierre ? Est-ce que c'était médiocre ou très médiocre déjà ?
Je me rappelle plus trop ce que tu as répondu. Je crois que tu as gueulé en disant « Mais pourquoi tu me poses cette question ?» Déjà pour commencer. Donc je suis pas très sûr de ta réponse.
Bon,
si tu m'as dit, si je me rappelle ce que tu m'as dit. Tu m'as dit pour faire des podcasts qui déchirent. Voilà pourquoi j'existe, pour faire des podcasts qui déchirent. C'est ça que tu m'avais dit.
Donc très médiocre.
Ouais, donc pas terrible.
Donc à chier même.
Mais ça a un peu évolué après, non ? Je crois, non ?
Ben, je sais pas, tu crois qu'aujourd'hui, pourquoi ma boîte existe ?
Ah, c'est toi, c'est à toi de répondre.
Non.
Attends, alors là.
Et en fait, je crois que j'ai toujours pas. Non, en fait, c'est pas ça que j'avais répondu.
Écoute, pour te situer la question, c'est ça. Ta boîte, elle existe pour servir tes clients, t'es d'accord ?
Oui.
Ok. Enfin, et donc, la question que tu dois te poser, c'est que si tu sers correctement tes clients, comment tu changes un peu leur vie à eux ? Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Tu vas pas leur dire, viens, on va faire un podcast. Ça, c'est super, mais ça sert à rien.
Non, je vais dire, viens, tu vas vendre plus.
Ouais, mais en quoi est-ce que tu vas. Va plus loin que ça ? Tu vois, les gens, ils font des choses pour eux-mêmes aussi. Les gens, ils sont humains. Mmh. Donc, qu'est-ce qui va les toucher, eux ? Qu'est-ce que tu vas changer dans leur vie qui va faire que leur journée est un peu meilleure ? C'est ça, la vraie question. C'est à ça que tu dois répondre. Et la vision, c'est de dire que si tu changes plein de vies de plein de gens comme ça, que devient ton monde ? Tu vois, ce sont deux choses différentes.
Eh bien, c'est bon, j'ai la réponse.
Vas-y, on t'écoute.
Eh bien...
Attention, il n'y a pas un petit jungle, là ?
Si, regarde.
La question, c'est pourquoi ton entreprise existe ?
Pour aider les gens à oser.
Ça, c'est bien. Et si les gens osent, quelle est la conséquence sur leur vie ?
Et si les gens osent, ils peuvent aller au bout du monde. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tout est possible. Un monde s'ouvre devant eux.
Donc, tu veux dire que tu veux un peu les libérer de leur chaîne et faire en sorte qu'ils aient plus de barrières mentales ?
De carcans, de barrières, de... Exactement.
Et donc, ton slogan, c'est quoi ? Alors, libérez-vous ?
Non. Mon slogan, c'est l'agence qui regarde les marques droit dans les yeux.
Ok. Parce que tu penses qu'elles sont un peu enchaînées ?
Est-ce qu'on n'est pas tous un peu enchaînés ?
Pas moi.
Moi non plus.
Je m'en doutais que tu allais répondre ça, c'est incroyable.
Est-ce que la majorité des gens n'est pas enchaînée ?
Oui, mais c'est difficile de sortir des sentiers battus parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne, quoi.
C'est pour ça que la toile est là.
Et voilà, c'est pas mal, mais ça, il faut que tu creuses un peu.
Oui, ben
d'ailleurs, ça correspond très bien à ta tonalité. C'est-à-dire que tu n'es pas une agence de podcast comme les autres,
tout
avec gna gna gna, on va faire le brief, avec le gna gna gna, le gna gna gna. Toi, c'est plutôt dans ta gueule. Allez hop,
voilà.
On y va.
Ouais.
Et ça, j'aime bien parce que justement, moi, j'aime les gens clivants.
Parce que tu l'es.
Parce que je le suis. Et si tu n'es pas clivant, tu as des gens qui t'aiment bien. Moi, j'aime bien les gens qui m'aiment et les gens qui me détestent. Et je pense que toi, t'es comme moi, et je pense que la toile, soit on aime, soit on déteste. Mais si on aime, on est vachement en phase avec ce que tu fais, et du coup, quand on écoute ce que tu fais, eh ben, on sort du lot, on s'en rappelle. Et je pense qu'il faut que les gens se rappellent de toi en bien ou en mal, parce que si tu fais un truc médiocre ou moyen, les gens t'auront écouté, ils auront trouvé ça bien, mais ils se rappelleront jamais de toi.
Comme dirait Brian Chesky, le CEO Airbnb. D'Airbnb, merci Pierre, il vaut mieux être aimé
100 fois
que
liker 1000 fois.
Voilà.
Voilà, on est bien d'accord.
On est bien d'accord.
Et donc, il faut être clivant. C'est-à-dire qu'il faut avoir des opinions et qu'il faut savoir les exprimer en disant « voilà mon point de vue ». C'est d'ailleurs vachement important pour une entreprise d'avoir un point de vue. Le point de vue, c'est quelle est ta vision du problème, comment il faut le résoudre et pourquoi tu n'es pas d'accord avec la façon dont c'est fait aujourd'hui. Et ça, c'est vachement important de s'exprimer en disant « voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qui est fait aujourd'hui, voilà pourquoi je propose quelque chose de différent ». Je te prends un exemple. Il y a des cafés qui vendaient du café pour 99 cents aux États-Unis pendant très longtemps. Et un jour, il y a Starbucks qui est arrivé et qui a dit « je vous vends le même café, on va l'appeler autrement. On va l'appeler venti, latte, caramel, macchiato, ce que tu veux. Ça coûte 6 $, mais t'as la banane quand tu l'achètes. » C'est juste un point de vue. Ils ont eu un point de vue sur comment on sert le café et pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont on servait le café avant.
Mais est-ce que ça, c'est pas du coup lié au purpose ?
Ça peut être lié au purpose, ouais. Ça peut tout à fait être lié au purpose, mais le point de vue, il est aussi lié à ta façon dont tu veux résoudre le problème. Mmh. Le purpose, c'est pourquoi tu existes, et le point de vue, c'est le début de la construction de ta proposition de valeur. Et comment tu vas dire à tes clients pourquoi tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils font, et en quoi toi tu es différente, tu vas arriver à quelque chose qui est un peu clivant. Et après, le client, il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Mais par contre, s'il est d'accord avec toi, tout de suite, il va faire quelque chose, quoi. Et s'il n'est pas d'accord, il va partir. À la limite, c'est bien. Comme ça, tu as une réponse, quoi.
Mais le problème, c'est que ça te limite un peu ton nombre de clients quand tu es client.
De toute façon, un client qui n'est pas d'accord avec ton point de vue, qui n'est pas d'accord avec ta vision, qui n'est pas d'accord avec ton purpose, il ne sera jamais client. Donc, autant faire le tri. Comme ça, tu vas gagner du temps.
Et justement, l'agence qui regarde les marques droit dans les yeux, qu'est-ce que tu penses de cette tagline, catchline, signature de marque?
Moi, je ne suis pas très marketing, je ne suis pas très tagline, parce que je pense que les taglines, c'est bien, ça fait rigoler, c'est sympa, mais ce n'est pas ça qui vend. Après, ça veut dire...
ça donne un ton quand même.
Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais je ne suis pas sûr, tu vois, il y a une interprétation, une ambiguïté. Ça veut dire quoi, regarder les marques dans les yeux? Je sais que pour toi, ça veut dire quelque chose, et que pour quelqu'un d'autre, ça peut vouloir dire quelque chose de différent.
Pour toi, ça voudrait dire quoi?
Ça veut dire, je vais être direct, je ne vais pas vous cacher la poussière sous le tapis, je vais vous dire les choses comme elles sont, ça peut ne pas être plaisant.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais moi c'est comme ça que j'interprète parce que je te connais.
Ah, tu crois que c'est parce que tu me connais?
Ouais, et puis parce que parce que je te connais, je sais comment tu interagis un peu avec les marques, mais je ne sais pas si les gens vont l'interpréter comme ça.
Ça pourrait être l'agence qui vous regardera dans les yeux.
Voilà, là, on est dans le porn, là, c'est foutu. Là.
34 pour 34 éléments.
Oui.
C'est un chiffre que tu as pris au hasard?
En fait, il y a un truc important, c'est que j'ai voulu réfléchir à ce que j'avais appris. Mmh. Et donc, j'ai pris un an pour écrire ce que j'avais appris dans toute mon expérience professionnelle, pour essayer de la retranscrire. Parce qu'un des trucs que je pense vraiment, c'est qu'il y a une différence entre l'expérience et l'expertise.
Bien sûr.
Voilà. Donc l'expérience, c'est ce que tu vis. L'expertise, c'est quand tu as digéré l'expérience, tu deviens expert. Mmh. Donc j'ai voulu digérer mon expérience pour devenir expert. Et pour ce, j'ai voulu essayer de me répondre à la question, c'est quoi une start-up ? Question que personne ne s'est jamais posée. Moi, je me suis posé la question et j'en ai tiré une conclusion qui est qu'une start-up est un système. Et dans ce système que j'ai décomposé, pour moi, il y a 34 éléments. Et ces 34 éléments, ça a été le départ de ma réflexion et c'était le départ de ce que je fais aujourd'hui.
Très clair. Est-ce que tu rêves de ce 34 régulièrement?
Pas du tout.
Est-ce que tu peux, en 45 secondes, et Richard va nous mettre le compteur, nous sortir tes 34 éléments?
Oui.
Tu peux? Attends.
On peut essayer.
Ok. On va plutôt mettre 45 secondes pour 34, c'est chaud parce que si tu mets plus d'une seconde à dire un mot, on va mettre 60 secondes. Donc, tu as 60 secondes pour sortir dans l'ordre, évidemment, Pierre, et me fais pas aller vérifier les 34 éléments. Alors, attends, on va te dire go quand ce sera prêt.
Si j'y arrive, hein.
Bah, je suis sûr que tu vas y arriver. C'est Richard qui va donner le go.
3, 2, 1.
Purpose, founder fit, culture, skill, role, expertise, alchimie, ambition, problème, marketing, positionnement, segmentation marché, client, go-to-market, roadmap, timing, j'en oublie un, c'est pas grave, adoption,
30 secondes,
rétention, Customer Experience, Hypothèse, Métrique, Feedback Client, Sales, Revenu.
15 secondes.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu vois, tu me troubles avec tes trucs là.
Oui, c'est
vrai. Sales, Revenu, Cash Burn.
3 secondes. 1.
Bon, c'est pas mal, non?
C'est pas mal.
C'est pas mal.
Je me suis emmêlé les pinceaux dans mon comptage sur mes doigts.
Par contre, j'aurais pu te raconter ce que c'est que le système startup en 30 secondes, c'était mieux.
Mais bon, ouais, là, mais je savais que tu allais réussir, alors que là, je voulais que tu réussisses, que tu te plantes.
Et donc là, j'ai perdu quoi? J'aurais pas de chocolat?
Tu n'auras pas d'épisode qui sort.
Bon,
okay. Tu viens ici pour rien.
Cool. Bon, ok.
Non, t'en as sorti, je pense, 25. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est pas mal.
C'est pas mal, hein?
C'est pas mal pour quelqu'un qui fait ça toute la journée. On a demandé à ChatGPT de nous donner les 34 étapes pour monter sa start-up.
Ok.
Qu'est-ce que tu crois que ChatGPT nous a dit?
Je pense qu'il a dû dire des banalités. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs. J'imagine que quand tu concatènes de la data là-dessus, je pense que c'est assez banal, du genre, il faut enregistrer son entreprise au tribunal de commerce, il faut appeler un avocat, il faut trouver un comptable, il faut embaucher des gens, il faut écrire un produit, enfin ce genre de trucs, quoi. Voilà ce que je pense qu'il a écrit.
Eh bien, écoute, allons voir en direct.
Allons-y.
Alors, identifier un problème ou un besoin sur le marché. Rechercher et valider votre idée de start-up, créer un plan d'affaires détaillé, effectuer une analyse SWOT, analyser le paysage concurrentiel, développer une proposition de valeur unique, déterminer la structure juridique de votre start-up, enregistrer votre entreprise et obtenir les licences nécessaires. T'es fort, Pierre. Ouvrir un compte bancaire professionnel, créer un plan financier, un budget, rechercher. On s'emmerde, ChatGPT.
Et voilà. ChatGPT. Pour faire des business plans qui ne servent à rien, c'est super.
Mais oui, ChatGPT ne remplacera donc jamais Pierre Gobile.
Peut-être un jour.
S'il y a une étape qu'il ne faut absolument pas sauter dans ces 34 étapes, c'est laquelle?
Je pense que tu peux pas dire qu'il y a des étapes à sauter parce qu'une start-up, c'est pas séquentiel.
Bah, j'ai l'impression avec tes 34 éléments dans l'ordre.
Oui, mais c'est pas séquentiel, c'est holistique. Tu vois, l'idée que je prends toujours, c'est quand tu vas chez le médecin et que t'as mal au ventre, il va pas te dire, bah, c'est super, t'as mal au ventre, je sais ce que c'est. Donc, prends la pilule bleue, ça sera mieux. Il va te dire, pourquoi t'as mal au ventre? Il va analyser ton corps. Et ça peut venir du stress, de ce que tu as mangé, de tes allergies, de plein de choses, de que tu as mal dormi, etc. Et donc d'ailleurs, c'est peut-être pas lié au ventre, c'est peut-être autre chose qui fait que tu as mal au ventre.
La tête.
Ça peut être la tête,
souvent,
exactement.
C'est ça.
Souvent, c'est ça. Une start-up, c'est un peu la même chose. Il y a plein de choses qui, combinées, font que ça marche. Tout est intimement lié. Si tu me dis, j'ai un problème de vente, ton problème de vente, il peut venir du fait que ton vendeur est nul, que ton message n'est pas bon, que ton prix est trop élevé. Tu vois, il peut y avoir plein de choses qui font que. Et donc, pour comprendre la réponse à cette question, il faut comprendre toute la start-up. Il faut comprendre toutes les choses et comment elles sont interconnectées.
Ok, mais est-ce que tu peux quand même me donner une étape qui est celle qu'il ne faut absolument pas sauter? À la limite, on peut sauter les autres, même si on ne peut pas sauter les autres.
L'étape numéro un quand tu crées un projet, c'est l'équipe, c'est-à-dire de qui tu t'entoures.
Ça, c'est le must.
C'est le must. Et pour moi, il y a 5 critères. La façon dont je choisis quelqu'un, je te les donne. Le premier critère, c'est la culture d'entreprise. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi est d'accord avec ma culture d'entreprise? Deuxième question que je me pose, est-ce que j'ai une alchimie particulière avec la personne? Parce que tu peux être d'accord sur les valeurs et ne pas avoir d'alchimie.
Est-ce que c'est important si la personne est experte?
Je préfère avoir de l'alchimie. Pour moi, c'est important parce qu'on est une petite société, on vit ensemble et j'ai envie de vivre avec des gens que j'aime.
D'accord.
J'ai pas envie de vivre avec des gens qui sont compétents mais qui me sont étrangers. Donc d'accord. L'alchimie, pour moi, c'est important. La troisième question que je me pose, c'est quel est le rôle que je vais lui donner dans l'entreprise? Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui remplisse un rôle qui soit utile à ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et pour ce rôle, je vais regarder deux trucs, les skills. Et deuxièmement, c'est le niveau d'expérience qui arrive en dernier. Parce que le niveau d'expérience, c'est une réassurance sur les skills, mais c'est tout. Donc pour moi, c'est culture, alchimie, rôle, skill, expérience. Voilà les cinq éléments que je regarde.
Et si tu as 5 sur 5 sur chacun de ces 5, tu le prends?
Oui, alors c'est pas tout à fait 5 sur 5. Je pense que les deux premiers sont plus importants, culture et alchimie. Je pense qu'après, si les gens ont des soft skills du style « je suis smart, je suis analytique, j'aime apprendre », si tu veux, tout est possible. Donc, à partir du moment où tu as quelqu'un qui a une curiosité intellectuelle et un cerveau à peu près bien construit, je passe sur l'expérience.
Pierre Gobile, écoute, je ne peux que aller dans ton sens.
C'est bien, pour une fois.
Pour une fois, si la toile a quelque chose, c'est une équipe.
Ben oui.
Et du coup, de l'équipe, tout part.
Tout part.
Tout part.
Ce que tu es en train de faire à la toile, personne ne l'a jamais fait avant toi. Et donc, chaque jour, tu mets un pas dans l'inconnu. Et donc, ce qu'il faut, c'est une équipe qui puisse, avec toi, analyser ce pas dans l'inconnu et t'aider à prendre la meilleure décision possible. La difficulté, quand on a un projet neuf, c'est qu'en fait, on n'a pas d'éléments décisionnels. Dans le cas d'une start-up...
C'est d'intuition.
Alors, l'intuition, non, parce que les intuitions sont souvent fausses.
Bah non.
Donc il faut vraiment faire attention à ces intuitions.
Pierre, alors attention, on va pas faire un débat sur l'intuition maintenant.
Aussi, on va en faire un.
Non, c'est pas souvent les intuitions sont fausses. Ça ne veut rien dire. Une intuition, c'est une intuition. C'est que
une intuition, c'est un point de départ. Et après, il faut que tu la valides. Et tu la transformes en conviction.
Tout à fait.
Et ce dont on s'aperçoit souvent, c'est que les intuitions sont fausses.
Parce que les gens pensent que, en fait, c'est une intuition alors que c'était une sorte d'interprétation.
Ce qui est très contre-intuitif, c'est que les intuitions sont souvent fausses dans une start-up. Et que justement, le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils font trop confiance à leur intuition. Et sur la base de l'intuition, ils exécutent quelque chose. Alors qu'il faut exécuter quelque chose sur la base de conviction. Et une conviction, c'est quoi? C'est une intuition qui est passée au tatami et qui devient quelque chose de solide. Et tant qu'on n'a pas quelque chose de solide, on n'exécute pas.
Au tatami ou au tamis?
Tatami, ça se dit pas? Oh, sur le tamis, ouais, tamis, c'est bon, ça me va. Tamis, c'est mieux. Au filtre, ce que tu veux.
Ouais. Non, mais c'est pas le tatami judo, c'est le truc où on met les.
Ouais, t'as raison. Je connais pas très bien le français, moi.
Non, mais c'est la cuisine.
Je me débrouille, hein, donc heureusement que t'es là, d'ailleurs. Merci. Hein. Voilà.
D'accord, très intéressant. Est-ce qu'on peut monter une start-up sans business plan, Pierre?
Il faut monter une start-up sans business plan.
Merci, Pierre, c'est la réponse que j'attendais.
Ok, j'ai gagné quoi?
Rien.
Bon.
Pourquoi il faut?
Parce qu'un business plan, c'est une connerie sans nom. C'est-à-dire que tu écris un futur qui n'existe pas et qui n'arrivera jamais. Donc pourquoi s'emmerder à perdre du temps à écrire un truc qui sert à rien? Ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse, c'est que ça te force dans un espèce de modèle totalement idiot qui consiste à dire que ben, les chiffres vont déterminer ton futur. Tu ne peux faire un business model que lorsque tu as acquiert une certaine compétence sur ton business. Ça se dit pas
acquis, pardon.
À qui? Ouais, moi, j'ai vécu 17 ans aux US. Il y a des mots qui m'échappent. Tatami, je savais pas. Acquiert, je savais pas non plus. Je fais plein de bêtises, hein, mais c'est pas grave. Donc, les gens me comprennent. Et donc, je pense que tu peux pas modéliser quelque chose que tu comprends pas. Et donc, avant de modéliser, ben, il faut expérimenter. Une start-up, c'est un espèce de big bang. Tu allumes plein de trucs dans tous les sens, ça pète dans tous les sens et tu récupères les morceaux. Et avec ça, tu te fais une opinion et petit à petit, tu construis quelque chose. Mais c'est pas un machin où tu dis, ben, si je fais ça, il va se passer ça. Ça n'a aucun sens.
Et en même temps, un peu, si je vends 10 produits à 100...
Oui, mais tu les vends comment, les 10 produits à 100? Tu vois, c'est facile de dire, je vais vendre 100 produits.
J'investis 50 là-dedans et on estime que c'est 3% le taux 2. C'est normal de faire des...
Oui, mais ça sert à rien parce que ça s'avère tout le temps faux.
Tout le temps.
Ouais. Donc il faut expérimenter, analyser l'expérimentation et à partir de là, commencer à tirer des petites conclusions.
Et donc pourquoi est-ce qu'il y a des VC en fait? Pourquoi est-ce qu'eux demandent des business plans?
C'est quoi? Alors c'est les mauvais VC qui demandent des business plans. Les bons VC, ils en ont rien à foutre, surtout quand c'est early, quand c'est jeune.
Donc les bons VC, ils te disent ok, j'aime bien ta gueule, t'es bon, t'es smart, j'aime bien l'idée.
Alors pas du tout. Les bons VC, ils ont des critères d'investissement qui sont très déterminés. Donc si tu me poses la question par exemple sur quelque chose de très early stage, je te dirais qu'un VC, ses critères d'investissement vont être 1, la team, 2, le purpose et la vision, est-ce que cette boîte a de l'ambition, et 3, le marché. Est-ce qu'il y a un marché qui existe? Est-ce que personne n'a encore jamais résolu ce truc-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Voilà les trois critères.
Et à partir de là, tu peux lever 2 millions.
À partir de là, si tu as une super équipe, un purpose, une vision incroyable avec un marché en devenir qui peut être vraiment intéressant, tu peux lever beaucoup d'argent, oui.
Génial.
Oui.
Et pourquoi est-ce que justement aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont du mal à lever là? Il se passe un truc.
Ah bah ça, c'est contextuel. Je pense qu'on est en train de vivre un changement de paradigme au niveau des VC. La Silicon Valley s'est créée il y a quelques années, il y a même très longtemps, et ça a toujours été un business d'artisan. Et comme c'était un business d'artisan, il y avait peu d'élus, et parmi ces peu d'élus, il y en avait quelques-unes qui devenaient gigantesques. Et puis c'est devenu un métier où il y avait de moins en moins d'artisans, il y avait de plus en plus de gens qui voulaient le faire, et tout le monde est devenu VC, donc il y a eu beaucoup trop de fonds qui se sont créés, et on a donc beaucoup trop financé de start-up. Parce qu'en fait, en règle générale, on ne peut pas créer des trucs exceptionnels de manière massive. Il y a très peu de choses exceptionnelles qui vont sortir. Et donc, le fait d'avoir multiplié les fonds d'investissement, eh bien, on a financé des trucs qui n'auraient jamais dû être financés. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que la plupart des fonds ne retournent pas l'argent auprès de leur LP et que donc, on va devoir financer beaucoup moins de startups parce qu'il y en a beaucoup moins qui ont vocation à être VC compatibles. Et c'est là où les gens font la confusion énorme. C'est de penser que toute startup a une capacité à être investie par un VC. Je crois que la statistique, c'est que 0,05% des startups sont investis par des VC. 0,05%. Voilà. Le reste, non. Sur une boîte, sur un fonds d'investissement de 400 millions, imagine que tu investisses à peu près 10 millions par entreprise. C'est une caricature. Et que tu prennes 20% à chaque fois. Donc, tu as 40 investissements de 10 millions et tu prends 20%. Sur ces 40, il y en a 37 qui vont ne ramener rien du tout. Donc, il y en a 3 qui vont ramener. Si parmi celles-là, tu en as une qui se vend 300 millions. 300 millions, tu vas me dire, c'est exceptionnel. Et je te dirais, c'est absolument exceptionnel. Rappelle-toi, on a 20%. 20% de 300 millions, ça fait 60 millions. Mmh. Donc moi, j'ai récupéré 60 millions sur une des trois qui marche. J'ai levé 400 millions. Et j'ai promis à mes investisseurs, à moi, mes LP, que j'allais retourner 3 fois le fonds, parce que c'est la norme. Donc que j'allais ramener 1,2 milliard. Donc 60 millions sur 1,2 milliard, c'est un carambard. Pour que ça marche, il faut que parmi les trois qui fonctionnent, chacune me ramène au moins 400 millions. 400 millions correspondrait à 20%, ça veut dire que la boîte doit être valorisée plusieurs milliards. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que le jeu du VC, c'est de trouver des boîtes qui vont devenir le futur Facebook.
Enfin, les gens ne comprennent pas, c'est un peu la faute des VC qui investissent à tour de bras.
Yes, les mauvais.
Oui, bah, y en a beaucoup parce que...
Bien sûr, mais tout à fait, t'as raison.
Ton LinkedIn, t'ouvres ton LinkedIn, t'as quelqu'un qui avait de l'argent.
Mais c'est toute cette idée mal façonnée de croire que tout le monde peut être investi par de l'argent d'investisseurs. Ça ne marche pas, ça marche pas. Ce métier-là de VC qui est noble restera et on continuera à créer des gros succès grâce à ça. Mais après, il y a beaucoup de gens qui créent des entreprises qui ont une vocation à devenir juste une PME. Mais c'est noble, mais ça n'a pas de vocation à être VC. Exactement. VC n'est pas un bon terme. On a... D'un côté, les VC qui investissent sur des trucs énormes, et après, on a des gens qui montent des boîtes qui pourraient bénéficier d'un petit investissement, un petit coup de pouce pour rapidement devenir rentable et créer un vrai beau projet. Mais ça n'existe pas.
Et bien, des business angels.
Ça ne suffit pas. Et les business angels, ils veulent s'adosser à des VC pour après jouer le jeu du VC. On va dire l'essentiel de l'économie, il viendra de ça. Il viendra de gens qui vont monter des boîtes entre 10 et 50 personnes. C'est ça l'économie. C'est compliqué comme sujet.
Bah oui, c'est compliqué.
Ouais.
Mais aujourd'hui, je ne connais pas une personne qui ne me dit pas « je vais monter une boîte et je vais lever sur un PPT ». Ils veulent tous.
Oui, mais ils hallucinent.
Il y a aussi un truc, quand tu dis « j'ai levé 2 millions sur LinkedIn », les gens disent « bravo ».
Non, mais en fait, un client, on ne fait pas une levée.
Oui.
Donc, on ne fait pas une levée.
Non.
C'est le début du travail.
C'est le début des emmerdes.
Mais on a fait croire aux gens avec la Startup Nation et toutes ces conneries qu'en fait, il suffisait d'avoir un PowerPoint, 3 idées à la noix et puis boum, on levait de l'argent.
Et est-ce qu'il y a des règles dans l'entrepreneuriat, Pierre? Ou non, parce que justement, on avance en marchant.
Tu as deux façons d'apprendre. Soit tu apprends par ton expérience, auquel cas, souvent, c'est douloureux. Mmh. Soit tu apprends en essayant d'apprendre de ce que les autres ont vécu collectivement. Et en essayant d'apprendre de ce que les autres ont vécu collectivement, ça t'évite de faire des erreurs un peu basiques. Il faut à la fois prendre la sagesse des autres et à la fois apprendre par soi-même pour apprendre.
C'est dur hein, d'apprendre par la sagesse des autres.
C'est très dur parce que les gens préfèrent se prendre un mur que l'éviter.
C'est plus facile.
Et c'est plus facile, mais ça fait plus mal. Hein.
Oui, mais au moins, tu as compris une fois, t'arrêtes et tu recommences. Après
mais au bout de 2 murs, t'es mort. Hein.
Ça dépend du mur.
Ça dépend du mur. Généralement, un mur, c'est costaud. Hein.
Tu sais que je t'ai copié, Pierre, parce qu'il y a un truc que j'ai adoré, et c'est aussi pour ça qu'on est entré en contact, c'est que sur ton site internet, c'est écrit en haut à droite, prenez le rendez-vous avec le fondateur. J'étais, ah ouais, tiens, je vais aller voir, je clique, et là, Calendly, je peux choisir un jour, je peux choisir 15 ou 30 ou 30 ou une heure, je sais plus. Je me suis dit, mais attends, je suis une privilégiée là, je peux aller parler au fondateur, quoi. Et là, j'y vais. Tac, rendez-vous demain 9h, ouais, demain 9h, visio. J'étais là, en Crète, visio avec le fondateur de 34...
Et t'étais en vacances.
J'étais en vacances.
Et tu me commences à la conversation de me dire, mais t'es qui, toi? Pourquoi je te connais pas? C'était ta première question.
C'est vrai?
Ouais, ça m'a beaucoup fait rire.
Bah, c'est vrai, parce que j'aimais bien cette approche sur le site, que j'avais bien aimé ce que t'avais dit sur le culture book, ça m'avait parlé, tu parlais de façon un peu prof de sport, même si t'aimes pas cette expression. Et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je t'ai un peu copié.
T'as raison.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur mon site internet, t'as pas « prenez rendez-vous avec la fondatrice », t'as « prenez rendez-vous ». Peut-être un peu moins fort, mais « prenez rendez-vous ». Et donc, la question que t'es censé me poser là...
Ça marche.
Alors, j'ai des rendez-vous, mais de gens qui candidatent pour la toile.
C'est pas mal, déjà. C'est un début.
Oui. Et pourquoi est-ce que tu crois que moi, c'est pas des clients?
Ah, il faut laisser le temps au temps. C'est la sérendipité, tu vois.
Il faut arrêter avec le temps au temps, là. Ça fait 5 ans.
Oui, ça fait 5 ans que tu as le bouton?
Non.
Bon.
Ça fait 4
patience.
Ans.
Patience.
Dans quoi t'es pas bon en tant qu'entrepreneur, Pierre?
Dans les détails.
Ah ouais?
Je déteste les détails.
Pourtant, d'y avait les aimes des détails, hein.
Et ouais, mais moi, je suis plutôt un homme de strat plus que de détails. L'implémentation dans les détails m'emmerde. C'est-à-dire que je préfère m'appuyer sur des gens, je sais qu'ils vont bien le faire. Alors moi, si je dois le faire, je le ferai, mais ça m'excite pas plus que ça.
Est-ce que tu es un expert ?
Alors, dans le domaine des startups, aujourd'hui, ouais, je pense que je suis un expert. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je pense que j'ai créé une vraie expertise. Ouais.
Il y a quand même un truc dans le mot expert où il y a un sens derrière un peu technique. Et dans le conseil en startup, en quoi c'est technique ?
Bah, c'est hyper technique parce que, par exemple, il y a des questions. Si je te dis, bah, travaillons sur ton go-to-market, d'accord ? Si tu n'as pas une expertise sur ce que c'est que le go-to-market, tu ne peux pas répondre à la question. On n'est pas dans la psychologie, on ne fait pas du coaching psychologique avec les fondateurs. On est sur des problématiques très concrètes où il y a une expertise à avoir pour pouvoir aider la personne à sortir ce qu'il faut. Donc l'expertise, elle est absolument fondamentale.
Et pourquoi tu n'as pas monté une boîte là, depuis que tu es en France ?
34 éléments, c'est une boîte. Hein.
C'est vrai. Alors excuse-moi, pourquoi tu n'as pas monté autre chose qu'une boîte de conseil ?
J'ai trois luxes pour moi dans la vie. Un, c'est d'avoir du temps libre. Mm-hmm. Je pense que c'est mon premier luxe. Mon deuxième luxe, c'est de pouvoir vivre où je veux. Mmh. Et mon troisième luxe, c'est de pouvoir le faire tout en gagnant ma vie. Moi, pour moi, le temps, c'est important parce que je fais beaucoup de vélo. Je suis musicien.
T'as un chien.
J'ai un chien. Je fais plein de trucs. Et j'ai pas envie de me retrouver, tu vois, sur mon lit de mort en me disant « Merde, j'ai raté ma vie. J'ai oublié tout ça. » Donc, j'ai pas envie de ça. Et il y a longtemps que je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être heureux. Ça paraît con ce que je dis, et cheesy et tout ce que tu veux, mais c'est vachement important de se dire, en fait, est-ce que je peux profiter du moment présent ? On regarde toujours le futur proche ou le futur lointain en disant, ah, je pourrais avoir ça, je pourrais devenir ça et tout ça. Et en fait, t'es jamais heureux quand tu fais ça. Et c'est vachement important de se dire, bah là, c'est cool, quoi, ce qui se passe, c'est bien. Et donc, je me suis aperçu de ça il y a assez longtemps. Et donc, je me suis aperçu que c'était pas tellement important de courir, d'être vu. C'est pour ça que tous ces trucs de like et de machin, ça me saoule. T'as même pas idée. Parce que j'ai pas envie d'être un héros de LinkedIn. Tu vois, je m'en fous complètement. Je le fais, mon truc LinkedIn, parce que c'est comme ça que les gens te voient. Mais ça m'intéresse pas. Et donc, pour moi, le plus important, c'est ça. C'est de vivre le moment présent. En étant heureux dans le moment présent. Et c'est pas facile. C'est pas du tout facile.
C'est dur.
Et donc voilà pourquoi j'ai pas envie de courir et de monter des boîtes et de me retrouver à moi-même des trucs.
Sans courir, tu peux aussi être heureux parce que tu kiffes ce que tu fais.
Mais je kiffe ce que je fais aujourd'hui.
Voilà, en l'occurrence, c'est ça.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on pense de Twitter qui devient X ?
Moi, j'en pense rien.
Moi, j'ai l'impression d'avoir des notifications de porno tous les matins, du coup.
Ouais, mais moi, je suis pas très Twitter. Je crois que je dois avoir 120 followers en 10 ans.
Joli, belle perf.
Je crois que mon premier post Twitter, c'est « Je me suis lavé les dents aujourd'hui ». Voilà, c'était mon premier post et depuis j'ai dû en poster 5 ou 6, tu vois, à peu près, donc c'est pas mon truc, quoi.
D'accord.
Donc bon, c'est des effets de manche.
C'est un peu cul quand même.
Ouais.
Tu te dis pas qu'il y a eu un côté un peu, il s'est dit, SpaceX, X.
Je pense pas que ce soit son truc, non.
Le cul.
Ouais, je le vois pas comme ça.
Le Musk n'est pas dans le cul.
Je pense pas, je connais pas, j'ai des copains qui le connaissent, très bien même, mais je pense pas que ce soit son truc.
D'accord. Pierre ?
Pénélope.
Nous allons terminer cet épisode.
Ok.
Et évidemment, puisque je fais du podcast, j'aime bien boucler la boucle et donc mon début ressemble à ma fin. Et donc, nous allons faire un petit jeu.
Oui.
Et ça va être le jeu du...
Je sais pas quoi.
Bah non, Pierre, t'as suivi au début, on a fait le jeu du...
Tu préfères quoi ?
Voilà, et à la fin, ça va être le jeu du...
Tu préfères pas quoi ?
Bah voilà, tu préfères quoi ? Exactement. Donc, est-ce que tu préfères, Pierre, que cet épisode assez génial ne sorte jamais, ou que cet épisode assez génial sorte, mais que personne jamais ne l'écoute ?
C'est quoi ces questions tordues que tu me poses ? Dans tous les cas, personne ne l'entendra, donc j'ai pas de réponse.
Si, mais...
Mais si, s'il sort jamais, personne ne l'entend.
Oui.
Et s'il sort et que personne ne l'entend, personne ne l'entend.
Tout à fait, mais
donc,
dans l'idée...
Rien.
On est d'accord, là, là, allez, le pragmatique, là.
C'est nul, la toile, franchement.
Franchement, t'es rationnel, c'est chiant. Allez, réfléchis, est-ce que tu préfères quand même que le truc sorte et tant pis, ou que non, je préfère le garder plutôt qu'il soit pas écouté.
Mais non, il faut qu'il sorte, évidemment, on fait ça pour que les gens écoutent.
Non, et personne ne l'écoutera.
Mais s'il sort pas, personne ne l'écoute non plus, j'ai pas d'option, là. Tu me mets dos au mur.
Soit il sort jamais,
ouais,
soit il sort mais personne ne l'écoute. Tu préfères quoi ? Tu préfères qu'il sorte jamais ou qu'on le sorte mais que tu sais que personne ne l'écoute ?
Qu'il sorte ?
Ah bah c'est intéressant, moi je dirais pas ça par exemple, moi je veux pas du tout qu'il sorte si personne n'écoute, je préfère me dire oh là là.
Mais moi je suis optimiste, je pense qu'il y a une chance que les gens l'écoutent.
Oui mais moi je te dis que personne ne...
Oui mais c'est ce que tu dis, mais moi comme je suis optimiste, je me dis peut-être qu'elle a tort.
Et est-ce que tu crois que cet épisode va être écouté, Pierre ?
Je pense que nous allons avoir des millions d'auditeurs, mmh. Ça va être extraordinaire.
It's a wrap !
C'est quoi ces questions de trucs ?
Bon donc, attends, quand est-ce qu'on chante ?
Moi je chante très très mal.
J'aimerais t'offrir ma chaussette, Pierre.
Formidable.
Voilà, et bien sûr tu peux... Décaloter ton micro.
Ah bah génial, voilà. Super, coach, en plus c'est parfait.
Et bah voilà, tu peux même le découper, tac, mitaine, très stylé.
Soyons clivants un peu. Et c'est quoi comme taille? Parce que là, c'est petit, non?
Ah ouais, c'est une taille 30.
Ok, je vais me couper les pieds. Réfléchis à ça. C'est une vraie question existentielle.
Toi aussi, tu devrais réfléchir.
Viens. Faut qu'on se voit.
Et voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le monde des startups et que vous aurez saisi pourquoi, dans certaines situations, le format court en podcast fonctionne. C'est assez insupportable à entendre, je l'admets, mais c'est trop important pour ne pas le mentionner. Donc si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à On tisse la toile sur votre plateforme d'écoute en cliquant sur suivre ou s'abonner en haut à droite, je crois que c'est à droite. Mettez des étoiles, idéalement 5 évidemment, et mettez un commentaire aussi, même un pseudo, on s'en fout, c'est juste histoire d'offrir de la visibilité à ce podcast qu'on espère génial et surtout massivement écouté.
Richard, est-ce que tu peux closer le studio s'il te plaît?
Ok.
Bye, à toutes.